Merci Jean-Claude. Eh bien, maintenant nous allons passer à Tariq Krim qui va nous donner quelques éclairages sur les enjeux sociétaux des biens communs. À toi.
Merci, bonjour. Donc, par le hasard du calendrier, je reviens ce matin d'une conférence qui a eu lieu à l'Olympia, qui a réuni tout le Gotha en fait, de l'industrie cinématographique et musicale sur un thème « Musique et cinéma sur Internet, l'impasse de la gratuité ». Alors tout à l'heure, vous parliez, Jean-Claude Guédon parlait de cette transition entre deux mondes, et je pense que la musique et le cinéma traduisent parfaitement aujourd'hui cette transition. Donc je vais vous parler des enjeux sociétaux, donc des biens communs informationnels, et notamment donc de tout ce qui est peer-to-peer. Et j'ai appelé ma présentation « Peer-to-peer, de la contestation sociale à l'alternumérisme ». Alors, pour démarrer, j'aurais voulu citer cette phrase de Manuel Castells qui a quelques années, qui, à mon avis, est tout à fait significative de ce qu'il se passe aujourd'hui dans le domaine de la musique et du cinéma. Plus la démocratisation d'Internet sera retardée, plus le web se développera autour de valeurs qui ne sont pas celles de l'ensemble de la société. Aujourd'hui, dans le cadre de ma présentation, j'aimerais pouvoir vous démontrer que les choix technologiques, les architectures de réseau, ne sont pas des choses neutres politiquement. Elles ont un impact sur le champ politique, évidemment, juridique, social, culturel. Que ces choix ne sont pas réversibles, ou très difficilement, et qu'ils doivent probablement faire l'objet d'un débat public, un débat qui n'a pas été fait, par exemple, dans le domaine des OGM ou dans d'autres domaines. Alors, tout à l'heure, je parlais de mouvement alternumériste, et j'ai l'impression aujourd'hui que ce mouvement se précise sur des domaines très connexes. On parle de brevets logiciels, on parle d'open source, logiciels libres. Excusez-moi, parfois j'ai tendance à mélanger les deux, je sais que certaines personnes sont sensibles à ça. L'architecture publique, de propriété intellectuelle et aujourd'hui de peer-to-peer. Alors, dans le cas de ma présentation, ce que j'aimerais vous présenter, ce sont deux modèles de sociétés numériques qui sont en train de s'affronter, dans un cas particulier qui est le cas de la musique en ligne. J'aimerais à la fois souligner les enjeux sociaux et également les finalités de ces deux modèles, et éventuellement faire quelques propositions. Alors, j'ai trois questions subsidiaires, et j'aimerais en fait qu'à l'issue de cette présentation, on puisse également se faire une opinion sur les questions suivantes. Doit-on faire confiance à la technique pour définir les règles de notre société? Peut-on faire confiance aux législateurs pour gérer l'évolution de la technique? Et enfin, souhaite-t-on avoir un débat public sur ces questions de société? Alors pourquoi la musique, me direz-vous? Certes, il y a une actualité immédiate que tout le monde connaît, les procès, la RIA. Une actualité également juridique avec la loi EUCD, la loi IP Enforcement. On a la chance d'avoir d'ailleurs plus tard deux spécialistes de ces questions qui vont nous en parler. Bon, également c'est un de mes sujets favoris pour ceux qui me connaissent. Mais également parce que, en fait, la problématique des peer-to-peer pose une question toute bête. C'est qu'aujourd'hui, si la loi empêche un gamin de 15 ans d'écouter de la musique, et c'est ce qui pourrait se passer, ou en tout cas c'est comme ça que les jeunes le prennent, c'est qu'il y a un problème. Et je pense qu'on est arrivé à une phase de transition où effectivement deux mondes ne se comprennent plus, ne se comprennent pas très bien. Alors, pour vous situer l'industrie du disque, il faut savoir que c'est une industrie qui est quand même de taille assez petite, c'est à peu près le chiffre d'affaires du BHV. Donc ça vous donne à peu près l'idée de ce marché. Et c'est un modèle qui est fondé sur un monopole dans la distribution, uniquement. La distribution, c'est à peu près 50% du prix du disque. Quand vous prenez un CD, vous le posez dans un rayon de Fnac, il vaut deux fois plus cher. Et une barrière d'entrée qui est le marketing. Quand vous savez que la distribution coûte cher, que le marketing coûte cher, vous restreignez ce marché à un petit nombre d'acteurs. Alors le problème, c'est qu'avec l'Internet, du jour au lendemain, le coût de distribution est devenu nul. Et comme ce coût est devenu nul, l'ensemble des acteurs de la chaîne remettent en cause le pouvoir d'un des acteurs qui est le distributeur. Aujourd'hui, on a eu deux étapes. On a eu une étape industrielle de la musique qui a fait que, comme on vendait des CD, plus on vendait de CD, plus le reste de la chaîne culturelle, donc les ayants droit, les auteurs, les éditeurs, les artistes, étaient rémunérés. Donc finalement, personne ne posait de questions. Aujourd'hui, avec l'Internet et le fait que le coût de distribution peut être nul, l'ensemble de ces acteurs disent « Attendez, on a accepté vos conditions à l'époque du CD, mais aujourd'hui, ces conditions ne sont peut-être plus les mêmes et votre rôle n'est peut-être plus le même. » Ce qui est intéressant aussi, et je pense que vous l'avez tous remarqué, c'est que cette industrie se met en concurrence avec de nouveaux acteurs, des acteurs de l'informatique, du logiciel, des gens qui ont une capacité également à comprendre et à aller très vite. Je voudrais juste rappeler à tout le monde qu'il y a 10 ans exactement, Microsoft avait dit « nous n'irons pas sur l'Internet ». Un an après, ils sont allés sur l'Internet et aujourd'hui, Netscape n'existe que pour une petite partie d'utilisateurs, notamment les acteurs du monde libre. Alors, également en termes d'économie, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a un problème, puisque en 3 ans, aux États-Unis, le disque a chuté de 30-40%. En 3 ans, en Allemagne, le disque a chuté de 50%. Là, c'est un vrai problème. Et en France, c'est à peu près 13%. Alors, la musique en ligne, je pense que je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est la plus forte adoption technologique de tous les temps. Je crois qu'en moins de 5 ans, on n'a jamais vu autant de gens adopter massivement une technologie. Alors bon, les chiffres les plus farfelus souvent circulent sur le nombre de fichiers échangés sur les réseaux peer-to-peer, donc je vais vous donner les miens en tout cas. Environ 250 millions d'utilisateurs dans le monde, 1 milliard de fichiers échangés par mois, et en France, selon le Credoc, à peu près 8 millions d'audionautes, donc d'utilisateurs de musique en ligne. Ce qui est plus intéressant, c'est la vitesse à laquelle le contenu a été converti en numérique. C'est-à-dire qu'en un an, l'ensemble du contenu actif est passé sur Napster. C'est-à-dire qu'en un an, on a eu autant, voire plus de contenu sur Napster qu'en 20 ans de CD. Donc on s'est retrouvé en fait face à une double problématique, c'est que non seulement la distribution ne valait plus rien, mais un nouveau marché a été créé par les utilisateurs et allait à une vitesse 10 fois plus rapide. Alors cette migration, elle est spontanée et anarchique, incontrôlable. On parle déjà de copyright heaven maintenant, comme on l'a parlé à un moment donné de tax heaven, et elle est inconnue. Aujourd'hui, personne, et j'insiste sur le terme, personne ne sait qui télécharge quoi. Alors il y a beaucoup d'instituts qui se créent, il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir, et ça on le verra plus tard, ça pose un problème en termes de régulation, puisqu'aujourd'hui, si le régulateur n'a plus cette capacité à savoir ce que les gens font, il n'a plus de capacité à réguler tout simplement. Alors, le peer-to-peer, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais en parler un petit peu. Bon, c'est une architecture d'ordinateur distribué. Tout le monde sait qu'il suffit de mettre en partage un fichier et de fil en aiguille, n'importe qui peut accéder à un fichier. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'un master de film a été volé à un studio, souvent par un studio concurrent, mais ça on vous le dira pas, est mis sur l'Internet à instant T, à Taipei, à Stockholm, à Paris, n'importe qui peut commencer à télécharger le fichier. Et au bout d'une semaine, vous avez des milliers, des centaines de milliers de copies disponibles. Ça veut dire aussi qu'à 20h30, quand la série 24h est terminée sur la côte est des États-Unis, les gens peuvent déjà la télécharger en France, en Angleterre. Alors qu'évidemment, TF1 démarre à peine ses négociations de droits. Ce qui est intéressant, c'est que le peer-to-peer va beaucoup plus loin aujourd'hui que le simple échange de fichiers, puisqu'il s'attaque au modèle de la radio. Technologie libre qui s'appelle le peercasting, que je vous enjoins à consulter, qui est une technologie de diffusion peer-to-peer qui permet avec un ordinateur, une connexion ADSL, de pouvoir servir 10 000 personnes. Ça, c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant, la web radio, son principal problème, c'était le coût de diffusion. Avec le peer-to-peer, la diffusion n'est plus un problème. Vous remplacez émission de radio par téléphone et vous avez le système de Skype, téléphone peer-to-peer, qui permet à n'importe qui de téléphoner gratuitement de toute la planète. À un coût quasiment nul, puisque aujourd'hui, Skype a annoncé qu'il resterait gratuit. Donc Skype a été créé par les fondateurs de Casa, je tiens peut-être à préciser c'est un outil de téléphone internet et on ne facturera en fait que des services plus, des choses comme ça. On s'attaque aussi au modèle de la télévision et du cinéma, mais ça je pense que tout le monde le sait. Alors en face de nous, on a deux modèles. On a un modem que je vais appeler DRM, Digital Right Management, qui a 10 ans, qui est un modèle qui est basé sur le contrôle, notamment sur le contrôle par des logiciels propriétaires, et qui a une part de marché en 10 ans qui est passée de 100% à 1%. Il y a 10 ans, en 1994, Aerosmith mettait en ligne le premier morceau téléchargeable, payant. Alors la rentabilité de ce modèle, en tout cas la rentabilité directe, j'entends, pour la personne qui opère un réseau de type DRM, est très peu probable, elle est très faible. Aujourd'hui, Steve Jobs lui-même dit qu'il n'y a pas d'argent à faire dans ces technologies. Directement dans ces technologies. Quand on se voit que iTunes, tout le monde cite iTunes comme le modèle, iTunes paye 8 cents aux artistes, iTunes sert avant tout à vendre des iPods. Face à ça, on a un modèle un peu plus jeune, qui a 5 ans, on va supposer que le peer-to-peer démarre avec Napster en 99, qui est un modèle qui est basé sur le partage, plus que l'échange. Je pense que file sharing, avant tout, c'est partage de fichiers. Alors, on a des technologies qui sont très différentes. On a des technologies libres aujourd'hui, puisque le réseau le plus puissant, 4 milliards aujourd'hui, est totalement libre. On a des réseaux qui sont des réseaux privés, voire des réseaux qui espionnent leurs utilisateurs. On en parlera tout à l'heure. Et la part de marché, c'est simple. En 5 ans, on est passé de 0 à 99% aux États-Unis. En France, je pense qu'on est 99, quelque chose. La rentabilité de ce modèle n'est pas encore connue. En tout cas, ce modèle s'est imposé et s'est suscité à l'ensemble des utilisateurs. Et donc, on se retrouve avec trois économies qui fonctionnent en parallèle à l'heure actuelle. L'économie classique, sinistrée, l'économie DRM, ce que certains appellent, en tout cas, ont appelé dans ce petit document, l'industrie licite. Et on verra après que le mot licite et légal n'est pas forcément, de mise, qui est donc basé sur le contrôle de la diffusion, et une économie peer-to-peer qui s'est créée de manière soudaine et qui a converti un nombre toujours plus important de fidèles. Alors, l'économie classique, ce qui est intéressant, c'est que la quasi-totalité des efforts de marketing et de distribution se font sur à peu près 3000 artistes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 3000 artistes en France, dans le monde, qui ont des investissements, le reste bénéficie collatéralement des revenus des autres, mais ne sont pas des priorités marketing. Alors dans le cinéma, c'est encore plus flagrant, parce qu'aujourd'hui, on a 100 films ou 150 films, Jérôme Seydoux tout à l'heure de Gaumont disait 100 films, qui concentrent l'intégralité des revenus. C'est-à-dire que si ces 100 films ne trouvent pas leur argent, en tout cas ne se remboursent pas, Hollywood est mort. On a un autre problème, c'est que 65% voire plus aujourd'hui de la musique est vendue en grande distribution. Alors, désolé, j'avais prévu une présentation PowerPoint, mais je voulais montrer à tout le monde ce qu'est un DRM, et je voulais surtout démontrer que n'importe quel gamin sait ce que c'est qu'un DRM, puisque je vous avais mis une photo de l'agent Smith dans Matrix. Et donc, aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'est un DRM. Alors, l'économie du DRM, donc du contrôle, est intéressante parce que aujourd'hui, à mon avis, le coût de diffusion, donc le coût social, éthique, économique, on verra après, si on renie toutes les libertés pour imposer ce modèle, est supérieur à l'espérance des gains sur l'ensemble des œuvres. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand vous entendez l'ensemble des ayants droit, ils sont persuadés que ce qu'ils ont a une valeur très forte. Et quand on regarde, on analyse sur le peer-to-peer, la réalité des échanges, on se rend compte que c'est pas toujours vrai. Ça a été un problème parce que on est dans une logique de tentative. On a un monopole aujourd'hui de distribution, mais on a aussi un monopole des droits. Si on n'a pas de musique légale disponible, c'est que c'est totalement impossible, aujourd'hui on peut le dire, de légaliser la diffusion d'un certain nombre d'artistes. Pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure, puisque il y a beaucoup d'histoires entre les producteurs, les artistes, de contrats, de trahisons, de choses comme ça, et que quand on arrive face à la numérisation où il faut tout renégocier, bien les différents refonds surface. Demandez, par exemple, simplement Maître Gainsbourg. Gainsbourg, il faut appeler l'éditeur, c'est Warner Chappell. Ensuite, il y a Universal. Résultat, quand on a fait le site web de Gainsbourg pour l'anniversaire de sa mort, on n'était pas capable de clearer le moindre morceau musical. Il n'y avait même pas d'extrait, parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Ça vous donne à peu près une idée du niveau de complexité. Alors, à côté de ça, on a un autre problème, c'est que quand on veut conserver son monopole, aujourd'hui, on est obligé de le déléguer à de nouveaux acteurs. Ces acteurs, c'est Microsoft, c'est Apple, c'est Intertrust. Ça va peut-être être à nouveau Intertrust, puisque pour ceux qui ne savent pas, Intertrust, qui est un peu le pionnier des DRM, a été racheté par Philips Sony et que Walmart s'y intéresse. Walmart, c'est le Carrefour américain, c'est un CD sur 5 vendu aux États-Unis. Et donc, on a délégué un pouvoir à des nouveaux acteurs. Et derrière cette belle unité de façade sur la musique licite, on a une vraie véritable bataille américano-américaine entre Hollywood d'un côté et la Silicon Valley. D'un côté, le contrôle de la technologie, de l'autre côté, le contrôle des droits. Alors le problème de l'économie DRM, c'est que les échanges contrôlés sont très peu fluides. Le problème principal du DRM, c'est que dès lors qu'on fait du digital right management, il y a le mot management. Ça veut dire que tout contenu a un coût. Et ça, c'est la fin de l'exception culturelle. Ça veut dire que tout contenu, par essence, devra être vendu. Ou en tout cas, tout contenu qui devra être supporté sur le long terme aura un coût de gestion. Ça posera un problème pour les bibliothèques publiques, ça posera des problèmes pour le contenu du domaine public. Si on DRMise le contenu public, ça veut dire qu'on doit artificiellement lui assigner un coût de management annuel. Le principal problème, à mon avis, c'est que c'est un outil de contrôle. Aujourd'hui, je ne vous connais pas, mais si vous passez sur un système de musique en DRM, on va peut-être réorganiser la salle, on va mettre tous ceux qui écoutent de la musique classique à gauche, tous ceux qui écoutent du rock au fond. Donc c'est un outil quasiment avec des moyens militaires, type échelon, pour connaître l'ensemble, instantanément l'ensemble des goûts des gens. Aujourd'hui, il y a une société à Redmond qui a accès à cet ensemble d'informations, puisque dès que vous avez votre Windows Media Player et que vous mettez le moindre CD, cette information est transmise. Et d'ailleurs, quand ils vont créer leur système de vente de musique, ils se concentreront uniquement sur les contenus que leurs utilisateurs ont écoutés. Donc alors ainsi. Alors, le DRM, c'est un cas précis, mais on en parlera peut-être plus tard. Il y a le Broadcast Flag, il y a Palladium. Alors là, on étend cette domination du contrôle. Broadcast Flag, tout le monde me dit, en tout cas j'en discutais avec les gens de la MPA, les majors hollywoodiens, en disant que c'est une bénédiction pour l'industrie. Aujourd'hui, Broadcast Flag, ça veut dire que n'importe qui regarde une émission de télé sur la planète pourrait être tagué. C'est-à-dire que c'est là, déjà la fin de médiamétrie, mais c'est assez effrayant en termes d'outils de contrôle. Alors, malheureusement, dommage, je n'ai pas la présentation, mais j'ai installé un logiciel qui s'appelle XP Anti-Spy sur mon Microsoft. Et je peux vous donner quelques fonctions qui seront assez parlantes. Ne pas envoyer d'informations sur les habitudes d'utilisation du Media Player à Microsoft. Ne pas obtenir les métadonnées depuis Internet. Ne pas ajouter les données de médias à la bibliothèque de médias. Désactiver le téléchargement automatique de codecs. Aujourd'hui, quand on installe un Windows Media Player et qu'on n'a pas les compétences techniques suffisantes, on installe un véritable outil de contrôle sur son ordinateur. Alors, cette économie DRM, elle est vraiment remise en cause actuellement par un certain nombre de pionniers, et on se rend très bien compte que les seuls revenus qu'on pourra en avoir sont des revenus collatéraux. Vous allez aller chez Walmart, vous allez faire vos courses, puis vous retournerez votre ticket de caisse et on dira vous avez gagné une musique. Vous les téléchargez sur le site de Walmart. C'est déjà ce qui va se passer avec Pepsi et McDonald's qui sont en train de faire des accords. On parle d'1 milliard de musique achetée par McDonald's. Alors face à ça, on a une nouvelle économie qui est l'économie peer-to-peer, qui est pour l'instant une expérience collective globale qui favorise des petits acteurs. Il faut savoir que la plupart des boîtes de peer-to-peer, c'est 2-3 personnes qui les ont créées et du jour au lendemain, elles sont devenues des boîtes mondiales. Alors ce qui est intéressant, c'est que le peer-to-peer change la distribution de la culture, mais à mon avis, va transformer la culture elle-même. De la même manière que la culture de la rue, street culture, le hip-hop, est devenue la culture la plus importante des 20 dernières années. Alors là, par contre, l'économie peer-to-peer en tant que telle, elle est très difficile à cerner pour l'instant, c'est encore trop tôt, mais elle a une certitude, c'est que le coût de distribution de masse sera toujours inférieur au coût de consommation. Même si aujourd'hui on part de 0 à 0, on pourra toujours, dans la consommation, avoir un avantage. Donc c'est avant tout une économie qui se fait sur les moyens de distribution. Le problème de cette économie, c'est que son caractère éthique est à géométrie variable. Je vous donnerai juste un exemple. CASA a fait 1 milliard de francs de bénéfices en pillant les auteurs et en espionnant ses utilisateurs. Donc aujourd'hui, on a un mouvement dans le peer-to-peer, une scission qui est en train de se faire entre les gens qui souhaitent utiliser le logiciel éthique, donc open source, dans une logique de partage, et qui disent « c'est une solution que nous voulons utiliser qui remplacera à terme la distribution de musique », et ceux qui sont dans une logique comme CASA, d'espionnage, de spyware, ce genre de solution. Évidemment, c'est une économie où on n'a pas encore de contrôle, pas de régulation. On parlait tout à l'heure de la sphère non transactionnelle qui est le peer-to-peer. C'est très difficile à modéliser et aujourd'hui, la culture change, mais on ne la voit pas. On ne sait pas ce qui change, pourquoi, comment. On sait juste que ça change. Aujourd'hui, il y a des solutions alternatives de rémunération, notamment la licence légale, et je pense que ceux qui sont attentifs à tout ça ont vu qu'au Canada, il y a une grande discussion autour de ça. Elles ne sont pas encore satisfaisantes, donc on a un vrai problème, c'est qu'on ne sait pas rémunérer les ayants droit. On sait que ça baisse certains coûts, mais on ne sait pas comment amener des revenus. Par contre, on a des avantages, c'est que c'est une égalité d'accès aux cultures du monde. Aujourd'hui, où que je sois, à Shanghai, à Tokyo, à Paris, à San Francisco, n'importe quel contenu est égalitaire en termes de diffusion. En plus, ce qui est intéressant avec le peer-to-peer, c'est que plus un contenu est populaire, plus il est diffusé, plus avec le système de multisourcing, donc d'accès à plusieurs fichiers, il est rapide à télécharger. Et évidemment, c'est en train de devenir la nouvelle norme sociale. Alors si on fait un comparatif entre ces deux économies, d'un côté on a l'économie DRM, avec 500 000 titres clearés, ça c'est Napster, celui qui a réussi le plus à clearer le plus de titres. En France, on a à peu près 70 000 clients. Et le coût d'une plateforme pour adresser 100 000 clients, comme Apple, iTunes, c'est à partir de 50 millions de dollars minimum, sans compter les coûts de marketing. À côté de ça, on a l'économie peer-to-peer avec 500 millions de sources minimum, 8 millions d'utilisateurs en France, et le coût d'un réseau comme Razorback, qui est un réseau peer-to-peer, est à peu près de 5000 euros par an pour servir 250 000 clients. Donc vous voyez qu'on n'est plus du tout dans la même économie. Alors maintenant, j'aimerais aborder le problème des choix de société. Et peut-être lancer cette affirmation, le peer-to-peer est une nouvelle forme de contestation sociale. Les services légaux ne profitent pas pleinement, déjà ne profitent pas aux créateurs, aux artistes pleinement. Je l'ai dit tout à l'heure, Apple iTunes, c'est à peu près 8 cents qui sont reversés aux artistes. Certains artistes de major, dans leur contrat, il n'est pas indiqué qu'ils doivent toucher de l'argent sur iTunes. Quand on parlait de services légaux, il faut savoir que les deux services qui s'affirment comme les services légaux, à savoir iCompile et Virgin Megastore, ne payent toujours pas la SACEM. C'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes ils ne sont pas d'accord. Donc aujourd'hui, la SACEM leur dit « vous n'avez pas le droit de vous appeler services légaux ». Le seul service qui nous paye, c'est le site OD2. Le peer-to-peer représente aussi, à mon avis, une diversité culturelle concrète. Pour tous les gens comme moi et certainement comme vous qui avons accès aux médias, on sait que je ne regarde plus la télé, je n'écoute plus la radio. Je suis sur Beta Lounge à San Francisco, je suis sur des sites dans le monde entier, mais je suis plus. Ma télé, je l'allume éventuellement vers 23h, mais aujourd'hui, on a une classe, une élite qui est en train de. Donc, moi, je touche vraiment, c'est de manière concrète la diversité culturelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à mon avis, mais ça c'est une intuition, je ne veux pas la définir comme une affirmation, le peer-to-peer ne bénéficie pas forcément aux bénéficie plus aux cultures locales que le DVD. Pour moi, le DVD, c'est plutôt quelque chose qui bénéficie à une domination US. Le peer-to-peer, à mon avis, va avoir tendance à aider les cultures locales. En même temps, je vous citerai un chiffre, c'est que le nombre de contenus francophones sur le peer-to-peer est de moins de 1%, alors que c'est gratuit. Ce qui est très intéressant, et je pense que Robin en parlera tout à l'heure, c'est que le peer-to-peer est en train de devenir un mouvement politique. Il y a une association qui s'appelle Click the Vote, qui va demander à l'ensemble des candidats pour 2004 aux États-Unis quelle est leur position sur le peer-to-peer. Il y a plus de gens qui ont voté, plus de gens qui utilisent voter pour CASA, on va dire, que pour George Bush. Et avec 1 million de personnes, on a un relais politique important. Surtout qu'à côté de ça, et ce qui est très intéressant, c'est que j'étais, là je reviens de Cabourg, et quelqu'un qui pourtant n'a pas des opinions, on va dire, plutôt de gauche, comme Bernard Ménez, s'est levé en disant, aujourd'hui, vous êtes en train de me dire que j'ai mal éduqué mes enfants, vous traitez mes enfants de voleurs. Donc on voit une réaction des parents par rapport au peer-to-peer qui est intéressante. En plus, il y a une hypocrisie, c'est que l'ensemble des gens qui étaient là-bas ont tous des enfants qui font du peer-to-peer. Alors malheureusement, je n'ai pas pu, j'aurais voulu vous montrer un petit des exemples d'activisme musical. C'est un site que j'aime beaucoup, Downhill Battle à New York, qui colle maintenant un peu partout des petits stickers où il est écrit « Attention, buying this city's funds lawsuits against children and family ». Et un site incroyable qui s'appelle le RIAA Radar. Quand vous allez acheter un disque, avant, il faut aller sur le RIAA Radar et il vous dira si c'est un label vraiment indépendant ou si vous soutenez les actions de la RIAA. Ça ne veut pas dire que les gens sont contre les majors, mais les gens sont contre soutenir des actions contre des familles. Vous avez vu certainement assez choqués par les procès qui ont d'ailleurs coûté plus d'argent qu'ils n'en ont rapporté. Alors face à ça, on se trouve dans une logique de double fracture culturelle. Et là, ça devient un peu subtil. C'est que d'un côté, on a l'économie des rênes qui dit finalement, c'est un monde sécurisé. Là, je remploie les termes d'une personne de la SCPP donc, qui représente les majors, où on met clairement la culture dans les mains des plus favorisés. Tout est payant. Au moins, on sait comment ça se passe. Dans l'économie peer-to-peer, c'est un peu plus subtil. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a une émergence d'une techno-élite dont je pense que beaucoup de gens ici font partie, qui ont accès à toute la culture gratuitement, parce qu'on sait se servir d'un ordinateur, on a une connexion au débit. Et à côté de ça, on a une classe sociale plus défavorisée, qui doit se contenter des médias plus classiques, télévision, radio, et qui, il n'y a pas d'autre mot, jeté en pâture au merchandising et à des solutions de marketing dur. Aujourd'hui, quand on voit que le modèle économique de Star Academy, c'est avant tout sur les classes sociales très défavorisées, qui n'ont pas encore l'Internet, qui n'ont pas les moyens de substitution que nous avons pu nous mettre en place. Donc on a vraiment un problème entre, j'appelle ça les laissés pour compte du numérique, et ça c'est un vrai problème qu'il faudra résoudre. Alors, la question que je pose maintenant est politique, c'est, a-t-on une Europe qui travaille contre le bien de ses citoyens? Alors là je vais donner deux exemples, EUCD, IP Enforcement. Je laisserai après le soin à mes deux collègues d'en parler bien mieux que moi. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est en train de mettre en place un dispositif légal qui légitime la toute puissance technologique étrangère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va installer des monopoles en Europe et on renforce en plus la domination, parce que la loi va renforcer la domination de ces monopoles. Alors ça dépend des politiques, mais quand on pense à Airbus, quand on pense à Ariane, on a quand même pensé à un moment donné qu'on avait besoin au niveau européen d'être indépendant, ne serait-ce que pour les transports, pour la politique spatiale. Et dans la politique culturelle, la politique internet, on a l'impression, et moi ça me gêne un peu, que l'ensemble de l'industrie attend un sauveur qui s'appelle Apple, qui va venir en courant de l'année 2004 sauver l'industrie de la musique. Mais à mon avis, Apple a juste vocation à se sauver elle-même, c'est déjà bien. Elle revient de loin, pour ceux qui connaissent la société depuis longtemps. Ensuite, ce qui est inquiétant, c'est que l'orientation économique et l'architecture qui est préconisée est en train de dénier à l'internaute le droit de produire, de diffuser. Aujourd'hui, on veut préconiser une architecture asymétrique. Les solutions dont je vous parlais, que peer-casting, peer-to-peer, ne sont intéressantes que si le débit est symétrique, c'est-à-dire si toute personne peut être diffuseur. Si le réseau est asymétrique et fortement asymétrique, ça veut dire qu'on nous relègue dans un rôle de consommateur. La dernière idée à la mode au niveau de la SACEM et d'un certain nombre de sociétés d'auteurs, c'est de dire, on va attaquer les uploaders, ceux qui mettent à disposition. On ne va pas attaquer les downloaders. Et là, on a effectivement un risque. Bon, je tiens à rappeler quand même que le peer-to-peer se fait essentiellement sur des fichiers illicites et que je suis personnellement contre. Mais qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas utiliser ce problème pour créer une architecture totalement asymétrique, de consommation unique. Consomme et tais-toi. Enfin, un problème qui me préoccupe, c'est cette évasion fiscale numérique qu'on est en train d'organiser, puisque l'Europe est en train de consommer sa culture, sa propre culture sous brevet américain. Je donnerai un exemple, MPEG-4, une heure de diffusion, 1 cent de royauté. On a un vrai problème, c'est que les DRM, les solutions technologiques qui nous sont proposées, pour l'instant données, mais ça sera jamais ad vitam, vont nous emprisonner, en tout cas emprisonner notre contenu dans des technologies qu'on ne maîtrise pas. Et ce qui était intéressant, c'est que j'en parlais récemment avec quelqu'un qui est proche des milieux de défense, et on discutait des moyens d'attaquer un pays. Donc, quand on attaque un pays, la première chose qu'on fait, c'est qu'on prend d'assaut la radio et la chaîne de télévision. Demain, on n'aura même pas besoin de faire ça, on aura juste besoin de mettre un bit de contrôle et on empêchera tous les lecteurs Windows Media Player de visualiser tel ou tel contenu. Ça paraît de la science-fiction, mais la dernière fois quand j'ai discuté avec cette personne de choses qui étaient de la science-fiction, on parlait d'échelons. Alors, quelle solution ? Là, j'aimerais vous présenter une vision politique du peer-to-peer ancrée sur le bien commun informationnel, culturel, mais également éducatif. J'étendrai volontairement tout ça à l'éducation. Alors, en termes de technologie, le choix de l'open source ou du libre, à mon avis, est fondamental, pas pour des raisons dogmatiques. Ceux qui me connaissent savent que j'utilise l'open source, pas pour des raisons dogmatiques, mais vraiment de manière pragmatique. C'est aujourd'hui un outil de neutralité économique. Ça n'avantage personne, donc les avantages sont collatéraux, sur le service, sur d'autres choses, notamment pour les infrastructures publiques. Un autre point qui est fondamental, c'est l'interopérabilité des outils et des contenus qui doit être garanti par l'État. Aujourd'hui, quand vous allez sur un système comme iCompile, si vous avez un Mac ou si vous avez un PC de moins de 2 ans, vous ne pouvez pas écouter de la musique. Ça, c'est pas normal. Enfin, ça c'est un point précis, mais je pense que tout à l'heure, Loïc en parlera beaucoup mieux que moi, c'est tout ce qui concerne le reverse engineering des solutions de contournement des mesures techniques. Et là, moi, j'ai une vision très personnelle, c'est que pour moi, la technologie, c'est quelque chose qui m'étouffe et j'ai besoin d'avoir des options. Et le simple fait de savoir que quelqu'un peut contourner la technologie, ça me permet de vivre mieux. Aujourd'hui, si on me dit qu'on ne pourra plus contourner la technologie, j'entends philosophiquement dans les textes, de manière scientifique, ça me pose un problème. Parce que je sais, pour avoir suivi l'évolution des DRM et la vision de certaines personnes, qu'on peut aller très très loin dans l'abus de la technologie. Évidemment, tout le monde vous dira, oui, mais c'est pour le bien de l'humanité. Mais on sait très bien que ça n'est jamais... En tout cas, même si c'est les gens qui vous disent ça sont remplacés après par d'autres gens qui n'ont pas du tout la même vision. Alors, bien commun informationnel, j'aimerais vous parler d'un projet qui est le réseau public d'échange, qui serait en fait un service public, donc un service à la disposition des citoyens, un réseau peer-to-peer public, qui permettrait à chacun de s'approprier d'enrichir les biens communs informationnels. Bien commun informationnel, c'est le patrimoine numérique français qui a besoin d'être disponible. C'est les archives de l'INA, c'est les archives des bibliothèques, c'est tout le contenu du domaine public, tout le contenu libre qui est en train de se créer. En tout cas, j'insiste sur la notion de service public. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on a un service public en télévision, on a un service public en radio. Et ce qui est important avec le service public, c'est que même si on ne le regarde pas toujours, ça donne une norme de qualité. Aujourd'hui, si TF1 n'est pas pire que ce qu'elle est, parce qu'on a Antenne 2, je pense que si on a des radios comme Radio France Internationale, France Culture, et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est quel que soit le pays où vous allez, quand vous allez vous écouter NPR, la BBC d'ailleurs qui nous a devancé là-dessus, puisqu'elle commence à mettre ses contenus, on a besoin de créer une norme qualitative minimale. Après, moi j'ai même une vision personnelle qui consiste à croire, ou à c'est une utopie, qu'aujourd'hui le seul moyen de sortir de cette concurrence, c'est d'augmenter le niveau moyen de la culture en France. Et seul l'accès gratuit, limité à un certain nombre de ressources, pourra le faire. On a la chance avec le peer-to-peer d'avoir quelque chose qui coûte pas cher ou pas très cher à développer. Alors autre chose, puisqu'on tout à l'heure on parlait, j'ai vu que Patrick parlait des problèmes de la gestion des droits. Je pense qu'aujourd'hui, on se retrouve face à trois types de contenus qui ont des formes et des logiques différentes. D'un côté, on a parlé tout à l'heure des biens communs informationnels qui doivent être gratuits, accessibles à tous, notamment par le peer-to-peer, dans des formats libres, interopérables. Ensuite, on a le back catalogue, les archives payantes en fait de la culture. C'est tout ce qui a été pillé depuis 5 ans sur Napster. Souvent des choses qui ne génèrent plus de droits qui ont déjà été amortis. qui n'ont plus besoin d'être, ils sont pas dans une phase critique où on doit rembourser des investissements. Pour ça, je pense qu'une licence légale ou un abonnement, alors je fais attention au terme parce que licence légale pour la musique, ça veut dire les radios, ça veut dire des mauvais souvenirs. Avec un effort à faire pour les ménages économiquement faibles, je pense que un abonnement, de toute façon on y viendra, il faut un abonnement à l'ensemble de la culture, pas très cher. Les artistes parlent de 1 à 2 euros, moi je pense qu'il faut peut-être plus. Et enfin, des contenus premium, qui sont les contenus à forte valeur ajoutée économique, qui relèveront du droit exclusif. Je pense que c'est normal, quand quelqu'un investit, quand Bruckheimer investit pour faire son film, il a envie d'avoir son argent, c'est normal. Et je pense que c'est important qu'il y ait une logique économique qui perdure dans l'Internet. Sinon, bah, effectivement, les gens du disque parlaient de collectivisation de la culture. Moi, je ne pense pas qu'on ira à dans cet extrême. Mais c'est important qu'il y ait une compétition. Et quand Seydoux dit qu'en Chine, il n'y a pas de cinéma parce qu'il y a trop de piraterie et qu'il n'y a pas de revenus économiques, d'un certain côté, il a raison. Alors, en conclusion, je pense que l'économie DRM a le droit d'exister. Je sais que certaines personnes sont assez opposées à ça. Mais comme l'économie peer-to-peer, elle doit devenir éthique et limiter, elle doit se positionner et garder sa place. C'est un marché de niche, l'économie DRM. C'est un marché de niche sur des produits très spécifiques. Pour le reste de notre économie, le peer-to-peer est probablement une des solutions envisageables pour réduire le coût de la culture et en démocratiser l'accès. Ça, c'est mon opinion. Enfin, un mot de la fin. Il y a trois compromis qu'il ne faut surtout pas faire. Le premier, c'est évident, il faut sauver notre industrie culturelle. Alors, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui nous disent que c'est bien, elle va s'écrouler. Mais je pense que c'est pas une bonne chose. Je pense aussi que les producteurs sont responsables. Un discours alarmiste fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes un jeune label et que vous allez voir une banque et vous dites « Attendez, je vais monter un label de musique, on vous prête pas d'argent. » J'ai connu ça à l'époque des startups, juste après le crack, on vous expliquait que comme la bourse s'était écroulée ou comme on a vu sur TF1 qu'il n'y avait plus de vente de disques, cette économie n'existe pas. Mais en même temps, sauver son industrie, ça ne veut pas dire transformer notre identité culturelle. Aujourd'hui, ce que nous propose l'industrie, et elle ne le sait pas encore, c'est qu'elle souhaite se sauver en transformant l'Internet et l'ensemble de notre société en une prison numérique. Et ça, c'est pas acceptable. Si aujourd'hui Universal avait 30% de part de marché dans le monde réel, elle n'est pas garantie d'avoir 30% de part de marché dans le monde numérique. Elle va devoir gagner ses pourcentages, pourcent par pourcent. Et la première chose à faire, c'est de proposer des produits attractifs. Je pense que je suis assez optimiste. Quand on voit la vitesse à laquelle l'Internet a su transformer la société, je pense que des services vont arriver maintenant. Est-ce que ce sont les gens qui sont en place qui vont les mettre? Ça, c'est une autre question. Et enfin, la dernière chose, c'est réaliser notre équilibre démocratique dans ce monde numérisé. Et ça, c'est important. La musique, la préservation de la musique, en tout cas d'une industrie musicale, ne doit pas remettre en cause notre démocratie et notre équilibre culturel. Merci.
Merci beaucoup Tariq pour cette super présentation. Avant de prendre une petite pause, je propose de vous laisser poser quelques questions. Alors, qui trouve une question à poser à Tariq après sa présentation? Madame?
Ouais, j'en aurais une. Sur la distinction de...
Je n'avais pas entendu vous présenter.
Excusez-moi. Alors, Mélanie Clément-Fontaine, je suis juriste. Voilà. Oui, je voulais, sur la question de la présentation, la distinction entre bien commun, informationnel, les archives payantes, la culture et le contenu premium, j'avais l'impression qu'un des critères, c'était l'investisseur, l'investissement. S'il y avait un gros investissement, alors on avait le droit d'un monopole. Et s'il y avait peu d'investissement, du coup, il avait été remboursé, à ce moment-là, il devrait être libre, etc. J'ai un peu choqué parce que c'est le critère de l'investissement, c'est quelque chose qui avait été justement écarté en droit d'auteur, parce que ça ne devait pas être un critère déterminant. Ça a été retrouvé en matière de logiciel, ça a été retrouvé pour les bases de données, et c'est suffisamment critiqué parce qu'on n'est plus sur des critères artistiques et qui protègent la création elle-même. Donc je voulais avoir votre avis sur ça. Non,
alors là, pour être peut-être préciser la question, déjà, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans le cinéma, dans le monde de la musique, la seule chose qui compte, c'est les deux premières semaines. Quand vous faites un film, vous regardez Variety, les premières semaines, combien de millions de dollars j'ai fait. Et à partir de là, vous savez si votre film est remboursé ou pas. Donc aujourd'hui, l'un des problèmes d'ailleurs, c'est que l'industrie s'est totalement focalisée là-dessus. C'est qu'en une semaine, vous n'existez plus. C'est le marketing tourne et on passe au titre suivant. D'ailleurs, l'une des aberrations aujourd'hui, c'est que la musique classique, on m'a raconté qu'il y a des rotations de 3 semaines. C'est surréaliste. Ça prouve qu'on est en train de marketer la musique classique comme la pop. Alors sur ce point, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'on a deux types de contenus. Je parle pas d'investissement, c'est pas la valeur d'investissement. Il y a des contenus amortis et non amortis. Je pense que c'est important parce que le producteur, même si on le critique, et ça m'arrive souvent de le critiquer, c'est quand même quelqu'un qui prend un risque. Quelqu'un qui réunit des gens, de l'argent, qui prend un risque pour qu'une œuvre. Alors après, on peut discuter de la validité d'une œuvre de Bruckheimer plutôt qu'un autre film, mais il a pris ce risque. Et donc, on est dans une problématique où si ces gens ne récupèrent pas leur investissement sur une durée, je ne sais pas, ça peut être 1 an, 2 ans, je n'ai pas d'idée sur les délais, ça posera un problème plus tard pour la création. Maintenant, on se trouve face à d'autres contenus qui sont des contenus amortis depuis des années. Ça m'amuse parce que j'avais un ami là qui représente beaucoup d'artistes du mouvement reggae de Jamaïque qui me disait qu'ils n'ont jamais été payés en 25 ans et que leur producteur, que je ne citerai pas, a daigné leur accorder 1000 livres de compensation. Je ne citerai pas de nom. Donc, une fois qu'on passe dans ce qu'on appelle le goal, en fait, un produit qui a plusieurs années, je pense qu'on est, on rentre dans une logique maintenant de back catalogue.
La question de l'investisseur qui veut chercher à se faire rembourser et la question du créateur qui veut essayer de vivre de sa création. Il y a deux questions. Et là, vous ne répondez qu'à la question de l'investisseur. Or, il y a quand même un créateur derrière qui a des droits sur sa création. Est-ce qu'il doit abandonner ses droits? Est-ce qu'il est payé qu'une fois et puis après, c'est fini? Voilà, vous parlez de l'investisseur.
J'essaie d'être pragmatique. C'est qu'aujourd'hui, que soit l'investissement qui est fait dans un contenu, il est immédiatement sur le peer-to-peer. Ce soit bien ou mal, je ne suis pas là pour le critiquer. C'est une réalité aujourd'hui. Alors après, on pourra distinguer. Moi, ce que j'essaie de voir, c'est quelles sont les solutions pragmatiques aujourd'hui que l'industrie peut apporter. Et j'en vois deux. C'est la première, créer un forfait sur des contenus. C'est pas moi qui vais décider lesquels. Hein. Je vous dis, il y aura de la musique forfaitaire, back catalogue, et de la musique premium, donc nouvelle, récente, qui sera payée à l'acte. Ce qu'on appelle le droit exclusif, qu'on appelle la licence légale. Et à côté de ça, il faut une troisième chose, qui sont les biens communs informationnels, domaine public, qui définit, qui donne une norme de qualité, en tout cas un accès à public à l'information. Maintenant, c'est une des solutions que je vois. De toute façon, quand on voit ce qui est en train de se passer au Canada, ce qui s'est passé à Cabourg il y a quelques jours, on se rend bien compte que l'union sacrée entre les producteurs, les artistes, les ayants droit est en train d'exploser. Ils attendent le passage à la loi UCD, mais une fois que cette loi va passer, on va rentrer dans d'autres logiques. Moi, j'essaie d'être pragmatique par rapport à ça. J'ai pas de dogme. J'ai presque 10 000 disques à la maison, donc je pense avoir payé ad vitam pour l'industrie du disque. Donc, c'est pas des petits et des gros. Donc, moi, le problème n'est pas là. Il faut qu'on trouve des solutions pragmatiques aujourd'hui. Parce que si on n'en trouve pas, dans 1 an et demi, les majors se feront racheter par Apple, Microsoft et d'autres, mais on n'aura plus d'industrie culturelle. Et ce qui est embêtant aujourd'hui, c'est que tout le monde a une constatation. C'est mal, on a un problème, les ventes baissent, mais apparemment personne ne s'y met. Et je pense que le politique va devoir s'engager, parce que c'est aussi la préservation de toute une industrie, d'emplois, de choses comme ça. Donc c'est une des solutions que je propose parmi d'autres.
Oui, moi je voudrais relancer, enfin vous pousser un peu les feux, là, Christian Paul, député socialiste. Je voudrais pousser un peu les feux sur la question qui vous était posée, parce que dans tout le débat qui entoure la question des droits d'auteur et ce choc des modèles économiques que vous avez, je crois, très bien décrit, La question de la rémunération équitable du créateur est posée en permanence, et d'ailleurs les producteurs utilisent effectivement comme des vagues de fantassins un certain nombre d'artistes pour aller plaider à leur place, pensant qu'ils auront davantage l'écoute de l'opinion publique qu'eux-mêmes ne peuvent le faire dans leur position provisoirement, si j'ai bien compris, hégémonique. Donc je crois qu'il faut qu'on trouve là des réponses, parce que sinon, en effet, le débat est un peu bloqué, et je crois que c'est important de distinguer en effet la manière dont on traite la question de la rémunération du producteur et puis la rémunération du créateur. Et là, il faut effectivement, enfin non seulement de l'engagement politique, mais vraiment de l'imagination pour trouver des solutions concrètes.
Je pense que de toute façon, on a une histoire culturelle et des valeurs culturelles qui sont différentes des États-Unis, et qu'on ne pourra pas copier les plateformes américaines, on ne pourra pas copier iTunes, c'est pas la solution aujourd'hui. La solution, elle ne peut venir que d'une concertation entre ces acteurs et de développer une solution qui nous ressemble. Or aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas de réflexion sur la création de cette plateforme. On n'a pas les outils juridiques prêts, on n'a pas le catalogue qui est disponible. Aujourd'hui, les producteurs sont en retard dans la migration du catalogue. Et on n'a pas de solution technique, sauf des solutions qui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ne nous avantagent pas sur le long terme, d'un point de vue politique, géopolitique, solution de Redmond. Donc il faudra trouver des solutions. Et je pense qu'on a, on a quand même des gens intelligents ici, même si malheureusement, des gens comme Rota, qui est inventeur de DivX, qui a révolutionné la vidéo, il y a 3 ans, il était... encore étudiant à Montpellier, me semble-t-il, et maintenant il est à San Diego dans une boîte de 80 personnes. Ce que je n'avais pas compris, c'est pourquoi ces gens-là partent, ils ne restent pas ici. Donc on a un vrai problème, c'est qu'il faut... maintenant on a cerné le problème, je pense qu'on est arrivé au bout du problème, et la vraie question c'est trouver des solutions. Alors rémunérer les artistes, bien sûr, comment ? Ça c'est là, il faut des propositions. Les propositions se valideront aussi certainement par des expériences, et l'expérience... il suffirait qu'il y en ait un qui ait trouvé quelque chose qui fonctionne, les autres le suivront. Mais je n'ai pas de position a priori là-dessus.
Merci. Loïc ?
Ah, non, mais très courtement, la question de Mélanie, c'est est-ce que cette solution implique qu'il faut changer le droit d'auteur pour dire qu'il y a des auteurs, mais ils n'ont plus de droits. Je pense qu'il n'en est absolument pas question. Si on se bat aujourd'hui sur le droit d'auteur, c'est parce que l'industrie de la musique est en train maintenant de le mettre en pièces. S'il devait ne pas changer, ça ne nous empêcherait pas d'imaginer des solutions telles que celles que décrit Tariq. Et ces solutions-là, si elles passent par certains auteurs ne sont pas rémunérés, certains droits ne sont plus rémunérés ou sont rémunérés autrement, peut-être, mais certainement pas parce qu'on a changé le droit d'auteur pour rendre ça interdit. Non, plutôt parce qu'on arrive à un consensus social, parce qu'on arrive à créer quelque chose économiquement qui est différent. Ça te rassure un peu, Mélanie ? D'accord.
Merci Loïc. Monsieur ?
Oui, pardon. Bonjour, Mathieu Pasquini, donc je suis le rédacteur en chef de Génération MP3. Je voudrais juste revenir sur faire deux petites remarques sur le très bon exposé de Tariq. Je voudrais que tout le monde ait bien conscience qu'il faut pas faire du peer-to-peer l'exclusivité du pirate. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est sur du peer-to-peer qu'on est nécessairement un pirate. On y fait beaucoup de choses sur le peer-to-peer, notamment on peut échanger des distributions Linux, on peut diffuser du contenu libre de droit. Et surtout, c'est un vecteur de communication et démocratisation de la culture. Pourquoi ? Je voudrais juste donner un exemple. Je rappelle qu'à Pékin, en Chine, il y a un certain nombre de logiciels de peer-to-peer qui ont été bloqués via les ports parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un moyen qu'avaient certains Chinois qui ont accès à Internet d'avoir accès à la culture, beaucoup de connaissances et à beaucoup de savoir. Notamment, il y a certains mots-clés dans Google qui sont maintenant interdits. Si vous essayez de chercher dans Google Casa Lite, qui est la version un peu craquée de Casa, vous trouvez plus de résultats. D'accord ? Donc moi, ce que je voudrais juste dire, c'est plus une version un petit peu humaniste, parce que je pense que c'est très important d'utiliser cette technologie pour beaucoup de choses, et notamment pour démocratiser le savoir, pour démocratiser la culture, et non pas seulement pour la France ou l'Europe ou les États-Unis, mais je pense pour la totalité du monde. Puisque c'est une culture, enfin c'est une technologie qui coûte a priori pas trop cher, qui peut être donnée à l'ensemble de la population mondiale, et l'ensemble de la population mondiale peut avoir accès à cette à cela. Donc je voudrais juste qu'on arrête de diaboliser le peer-to-peer. Parce que c'est pas parce qu'on utilise Casa, qu'on utilise Idonkey, qu'on utilise... Bon, il y a 160 logiciels de peer-to-peer qui circulent, donc on peut en citer beaucoup. C'est pas forcément des pirates. Les pirates, à mon sens, ce sont ceux qui vont télécharger beaucoup, qui vont prendre des films, qui vont prendre des logiciels, qui vont prendre les cracks, qui vont les graver, puis qui vont aller les vendre aux puces. Là, il y a danger, je suis d'accord. Par contre, la gamine de 12 ans qui se fait attaquer par la IRA aux États-Unis parce qu'elle a téléchargé un petit peu de MP3, là, je crois que c'est... Il y a un problème de fond sur nos libertés. Et à mon avis, il faut faire le distinguo, il faut le faire tout de suite avant qu'il soit trop tard. Notamment d'un point de vue sémantique, puisqu'on parle du peer-to-peer dans tous les cas de figure. Comme on parle du nucléaire, ça peut à la fois tuer et ça peut à la fois faire beaucoup de choses. Hein? Voilà.
Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi sur la nécessité de réarchitecturer le débat et de ne pas devoir se défendre quant à l'utilité de ce qu'on apporte, mais de bien souligner, comme l'a fait M. Dédon tout à l'heure en faisant l'analogie avec l'imprimerie, que nous avons un nouvel outil de diffusion des savoirs. On va quand même pas s'excuser pour être capable de mettre à disposition de l'ensemble de la population plus de savoir, plus de connaissances. Il faut de temps en temps, comme tu l'as fait, remettre les choses à l'endroit.
Ça me paraît un point essentiel à l'ensemble du débat qu'on l'a en tête.
Voilà. Non.